إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإخوتي في الله نواصل بعون الله عز وجل قراءة شرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين لشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى مع شرح الشيخ سليمان القصير حفظه الله وما زلنا في كتاب الحج. نعم، فقال المؤلف رحمه الله: وأما فدية الأذى، فدية الأذى، قال: إذا غطى رأسه أو لبس المخيط أو غطت المرأة وجهها أو لبست القفازين أو استعمال الطيب فيخير بين، فهذا أو هذه يخير بين صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين أو ذبح شاة. يقول: وفدية الأذى هي ما وجب بفعل محظور يترفه به، يترفه به أي من غير الضرورة، كالحلق واللبس والطيب، لقوله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. ولحديث كعب بن عجرة قال: أتى علي النبي صلى الله عليه وسلم زمن الحديبية والقمل يتناثر على وجهي، فقال: أيؤذيك هوام رأسك؟ قلت: نعم. فقال: فاحلق، فاحلق وصم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين أو أنسك نسيك. أخرجه البخاري ومسلم. دونك on est toujours dans le chapitre du pèlerinage concernant ici l'expiation de Al-Adha, qu'on appelle l'expiation de Al-Adha. Al-Adha, hein, ça veut dire la nuisance, quelque chose qui nuit, c'est un Adha dans la langue arabe. Donc il dit celui qui a un état de Ihram, sacralisation, et qui couvre sa tête, ou qui porte un vêtement qu'on dit Makhit. D'accord, Makhit, vous rappelez, qu'est-ce que c'est, Hassan?
C'est tous les vêtements qui marquent un angle du corps, comme les camis, sirouel, pour la femme, les gants.
Voilà, Hassan. Hakad al-Makhit. C'est pas comme ils disent les vêtements cousus. C'est pas ça du tout. Ça peut être un vêtement. Un vêtement peut être, yani, ou ne pas être Makhit, mais cousu. Est permis à porter, du coup, pour le muhrim. D'accord ? Non. Et inversement, il se peut que le vêtement soit makhit et non cousu. Et du coup, interdit à porter. Imaginons qu'un vêtement, il est makhit, hein, un qamis, mais qui ne comporte aucune couture. Allahu alam, ça peut exister. Voyez ? Non. Et également la femme qui porte un tissu qui recouvre son visage. D'accord ? Qui recouvre son visage. D'accord ?
On a parlé du niqab, on a dit que c'était...
Oui, c'est le niqab qui est interdit.
Mais le sitar, t'as le droit.
Voilà, le sitar, donc un voile qui ne touche pas ton visage, en fait, qui va juste cacher ton visage devant les étrangers, bien sûr, c'est permis. Mais le niqab qui va recouvrir et épouser les contours du visage, qui va être collé au visage, c'est ça qui est interdit pour la femme. D'accord ? Également, le port des gants pour la femme. Donc, pareil, les gants, pourquoi ? Parce que ça épouse les contours des doigts. D'accord ? Et également, l'utilisation du parfum. D'accord ? Donc, tous ces gens-là, qui sont donc en état d'ihram, et qui ont fait ces actes-là, ils ont le choix pour expier leur acte entre trois choses. Soit jeûner 3 jours, soit nourrir 6 pauvres, soit sacrifier une bête. Parmi les chèvres, c'est-à-dire un mouton ou une chèvre. Taïeb ? Non. Donc il dit ici le cheikh, l'expiation de l'Adhan, elle est obligatoire pour celui qui a commis quelque chose d'interdit en état de ihram. Donc on a cité les mahdourat, les interdictions, les prohibitions qui pèsent sur le muhrim. On les a vues les fois dernières, alhamdulillah. Combien on en a vu, Oussama, en tout ?
9.
9, ahsant, Nourdine. Enlève la main, Nourdine. C'est Oussama que j'interroge. Hein? Tu te rappelles en classe, avant, c'était comme ça avant, le prof. C'est pas toi que j'ai interrogé. Nourdine, c'était le genre d'élève, Yanni. Je connais. Hein? C'est bien, Nourdine, mashallah. Allah mabarak. Taïm. Non, donc, tous ceux qui sont tombés dans une interdiction parmi les muhrimin et yani, qui ont fait cela pour une raison, yani, pour soulager quelque chose, d'accord, comme le fait de se raser, d'accord, ou enlever des morceaux de poils ou des cheveux, également porter, comme on a dit, le mahrid, des vêtements mahrid, ou se parfumer, d'accord. Eh bien, lui, il a le choix entre ces trois choses. Il dit Allah Jalla wa'ala dans la sourate al-Baqarah, dans le sens rapproché, et parmi vous, celui qui est malade ou qui est touché ou dont la tête est touchée par une nuisance, un mal, ou dont la tête est touchée par un mal, eh bien, fafidiyatun. Il a une expiation à faire, min siyamin, le jeûne, ou sadaqatin. Ça, c'est l'aumône, c'est-à-dire nourrir les 6 pauvres, ou nusukin, c'est-à-dire sacrifier la bête. D'accord ? Ça, c'est le hadith. Il a cité ici les 3 fidya, ici, de manière générale. Et on a le détail dans le hadith de Ka'ab ibn Ujra, qui a dit que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, est venu à moi durant Al-Hudaybiyah, durant la période de Al-Hudaybiyah. En quelle année Al-Hudaybiyah, il croit ? Sulh Al-Hudaybiyah. Fayyam. Les historiens. Al-Hudaybiyah. C'est une date importante, les frères, celle-là. Elle est très importante. Elle est très très importante. C'est là que les musulmans ont commencé à avoir vraiment une puissance. Une puissance et un respect. Vous voyez ?
C'est
la même guerre. Hein ? Là. Al-Thamin, c'est Fath Mekka. Fath Mekka Thamin. Sadis, 6e année. Sulh al-Hudaybiyah, 6e année. D'ailleurs, c'est important parce que dans le Coran, Allah Jalla wa'ala, il cite cet événement-là, notamment sur le Fath. Inna fatahna laka fathan mubina. Ici, Allah Jalla wa'ala, il parle de Sulh al-Hudaybiyah. Les ulama, ils disent que le Fath, c'est Sulh al-Hudaybiyah. Parce que c'est là que Allah Jalla wa'ala, par cette cause, il a ouvert aux musulmans plein de bienfaits, mashallah ta'ala. D'accord ? Et puis après, il y a eu Fath Mecca. Et par rapport aussi à notre croyance, au sujet du mérite de certains sahaba par rapport à d'autres sahaba, radiyallahu anhum. Tous les sahaba ont un mérite sur nous, mais ils ne sont pas tous au même niveau. Et par exemple, ceux qui ont embrassé l'islam, qui ont combattu, qui ont versé l'aumône avant al-Fath, c'est-à-dire avant Sulh al-Hudaybiyah, ils sont meilleurs que ceux qui ont combattu après Sulh al-Hudaybiyah. Vous voyez ? Donc on voit que ces dates-là, elles sont importantes, même dans la croyance de la aqidah, elle est importante, par rapport à justement la croyance qu'on a par rapport à certains sahaba qui ont plus de mérite que d'autres compagnons. Naam. C'est là qu'il a dit « La tasubbu ashabi » Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Vous voyez, « La tasubbu ashabi » Ça, il avait dit à qui ? Khalid ibn al-Walid, qui lui, il était entré en islam après Sulh al-Hudaybiyah. Il avait donc mal parlé à un autre compagnon qui lui était entré avant lui, avant Sulh al-Hudaybiyah. Et le prophète de lui dire « La tasubbu ashabi » C'est-à-dire, n'insulte pas mes compagnons qui sont entrés avant Sulh al-Hudaybiyah. Ils ont un mérite sur toi, que toi tu n'as pas. Non. Donc on revient au fiqh, inshallah ta'ala. Il dit, il est venu à moi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pendant la période de l'Hudaybiyah. Le qaml, l'époux, là. L'époux était dispersé sur mon visage. Faqala, il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, est-ce que l'époux de ta tête, yani ces bêtes-là, hawam ra'sik, ces bêtes nuisibles de ta tête, te nuisent, te font du mal, te font mal? Qala na'am. Il a dit oui. Alors il lui a dit, rase tes cheveux, rase-toi. Ihliq, tout ce que tu as sur la tête, pour te débarrasser de ces bêtes, de ces puces, poux, et jeûne 3 jours. Ou nourris 6 pauvres. Ou sacrifie une nasika, une bête. D'accord? Donc là, on a les détails du verset d'Allah tabarak wa ta'ala. Le prophète, il a détaillé, il a dit, voilà, rase-toi, c'est une nécessité, rase-toi, mais tu as quand même une expiation à faire. Cette expiation-là, c'est quoi? C'est soit jeûner 3 jours, soit nourrir 6 pauvres, soit sacrifier une bête. Wadih? Hadith al-Bukhari muslim. Naam. Thumma qala al-muallifu rahimahullah. وإذا قتل الصيد أي المحرم إذا قتل الصيد خير كذلك خير بين ماذا؟ بين أولا ذبح مثله إن كان له مثل من النعم، وثانيا بين تقويم المثل بمحل الإتلاف فيشتري به طعاما فيطعمه يقوم الثمن ويشتري به طعاما ويدعم به المساكين لكل مسكين مد بر أو نصف صاع من غيره أي من غير بر أو يصوم عن إطعام كل مسكين يوما فيخير من قتل الصيد بين ذبح المثل إن كان له مثيل من بهيمة الأنعام وبين تقويم المثل بقيمته في المكان الذي أتلفه فيه ويقومه عدلان فإذا قوماه ب100 ريال مثلا قوما الثمن ب100 ريال فإنه يشتري ب100 ريال هذه طعاما من بر أو غيره ويطعم كل مسكين مدا كل مسكين واحد مدا من البر أو نصف صاع من غيره أو يصوم عن إطعام كل مسكين يوما فإذا كان الطعام لعشرة مساكين مثلا إذا كان الطعام لعشرة مساكين صام 10 أيام وهكذا لقوله تعالى ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما وإن كان الصيد مما لا مثل له من بهيمة الأنعام خير بين الإطعام والصيام. طيب. On va parler maintenant de celui qui a tué un gibier. On a vu une interdiction de tuer un gibier pour al-muharim. طيب. Lui aussi, il aura le choix entre plusieurs choses pour expier ce qu'il a fait. Première expiation, sacrifier une bête semblable à la bête qu'il a tuée. Sacrifier une bête parmi les bêtes de troupeau, chameau, vache, mouton, chèvre, semblable à la bête qu'il a tuée.
Par rapport à la morphologie.
Ah, la morphologie, tu as les vaches de troupeau, les vaches domestiques, et après tu as les genres de vaches, mais sauvages. Je ne sais pas comment on appelle ça en français, des vaches sauvages, ou des vaches qui vivent à l'état sauvage. Donc si lui, il a tué une vache sauvage, il va devoir sacrifier une vache de cheptel, de troupeau.
Et si tu as un lapin, par exemple ?
Si tu as un lapin, il y a quoi ? Un lapin, ça serait un agneau, là.
Allah a'lam. Parce que la semaine dernière, on avait parlé justement du fait qu'il fallait qu'il égorge une bête assez conséquente et que justement, on avait même parlé de prix et tout, on disait que ça coûterait cher parce qu'on avait cité chameau et vache. Allah a'lam.
Non, si il tue une grosse bête, il a tué une grosse bête interdite à tuer, il va devoir sacrifier une grosse bête aussi.
Ça dépend.
Ça dépend de ce qu'il a tué. D'ailleurs, ça c'est la première option. La deuxième option, il va estimer la valeur de cette bête-là, d'ailleurs, à l'endroit où il se trouve, à l'endroit où il a fait cet acte-là, où il a tué cette bête. Il va estimer sa valeur. Et il va donc considérer cette valeur-là, prendre en compte cette valeur, et il va acheter avec cette somme, il va acheter avec son argent de la nourriture avec laquelle il va nourrir les pauvres. Et à chaque pauvre, il devra donner soit un mout de blé. Un mout, c'est ça. C'est la quantité que peut contenir deux mains jointes adultes moyennes. D'accord ? Un mout de blé, soit la moitié d'un sa, c'est-à-dire deux mouts, d'autre chose que du blé. Donc le blé, un mout. Et tout ce qui n'est pas du blé, ça sera deux mouts. D'accord ? Mouddan. Naam. Ah, c'est la deuxième option. Troisième option, il jeûne pour chaque pauvre un jour. Donc s'il devait nourrir, par exemple, 10 pauvres, il pourra jeûner 10 jours s'il veut. D'accord ?
Non. J'ai pas compris le lien entre l'estimation du prix et le mood.
Tu verras, Charles. Le Cheikh va expliquer, tu vas comprendre.
Ça fait une quantité, non ?
Le Cheikh va expliquer, non. Il dit ici, donc il a le choix, celui qui a tué un gibier, entre sacrifier une bête équivalente à la bête qu'il a tuée. S'il y a un équivalent. Donc s'il n'y a pas d'équivalent, dans ce cas-là, il va passer à autre chose, on va voir après. S'il y a un équivalent, il va sacrifier donc son équivalent chez les bêtes de troupeau. Min bahimat al-an'am. Chameau, vache, mouton, chèvre, taïe. Mais il aura le choix aussi, du coup, entre estimer la valeur de son équivalent à l'endroit où il a fait cet acte-là. Combien elle vaut à cet endroit-là ? Pas en France ou là, au Maghreb, mais à l'endroit où il a fait ça. D'accord ? Mais cette estimation-là, elle doit être faite par deux hommes intègres, justes, équitables, de confiance, adl. D'accord ? Connus pour leur honnêteté. Pas des gens qui vont mentir ou qui vont. D'accord ? Adl. Al-adala, qui ont l'adala. L'adala, c'est quelqu'un est connu pour ne pas commettre des péchés majeurs déjà. Ce n'est pas un fasiq. C'est pas un fasiq. Ce n'est pas quelqu'un qui est connu aussi comme faisant des péchés mineurs, même mineurs, mais de manière perpétuelle, tout le temps. Yani. D'accord ? Au contraire, c'est quelqu'un qui est connu pour sa piété, pour sa crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Non. Donc ces deux personnes-là, qui vont estimer la valeur, les ulama, ils ont divergé. Est-ce que celui qui a fait l'acte, s'il est adl lui-même, est-ce qu'il peut estimer lui aussi ? Est-ce qu'il peut faire partie de l'une des deux personnes qui estiment ? Les ulama, ils ont divergé. Mais sahih, c'est qu'il ne peut pas. Parce qu'il ne peut pas être jugé et en même temps juge. D'accord ? Il ne peut pas juger et en même temps être le juge. Donc c'est deux personnes autres que lui. D'accord ? Deux personnes autres que lui. Donc ces deux personnes-là, elles vont estimer, par exemple, que la bête a une valeur de 100 riyals. D'accord ? 100 riyals. Eh bien, il devra acheter 100 riyals de nourriture. 100 riyals de nourriture. Voyez ? Soit de blé, soit d'autre chose. Et avec cette nourriture-là, il va nourrir, il va donner à chaque pauvre soit un moud de blé, soit deux mouds d'autre chose. C'est tout. Donc, ces 100 riyals là, il va les partager entre chaque pauvre, comme on a dit, un moud de blé pour chacun, ou alors deux mouds pour chacun, d'autre chose que du blé. Ou alors, troisième option, il jeûne pour chaque pauvre qu'il devait nourrir un jour. Donc il fait le calcul. Si avec la quantité qu'il avait, il devait nourrir 10 pauvres, il devra jeûner 10 jours. Khlas ? Non. Comme il dit ici, donc si la nourriture devait être partagée entre 10 pauvres, il jeûnera 10 jours. Wahakada. Donc la preuve, hein, la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, dans la sourate Al-Ma'idah, verset 95. Donc quiconque parmi vous en tue délibérément, qu'il compense alors soit par quelques bêtes de troupeau semblables à ce qu'il a tué, d'après le jugement de deux personnes intègres parmi vous, et cela en offrande qu'il fera parvenir à destination des pauvres de la Kaaba, ou bien par une expiation en nourrissant des pauvres, ou par l'équivalent en jeûne. D'accord ? La preuve elle est là, elle est claire, alhamdoulilah. Tayyib. Puis il dit, et si le gibier qu'il a tué n'a pas d'équivalent parmi les bêtes de troupeau, dans ce cas-là, il devra choisir entre les deux autres choses seulement, qui sont nourrir les pauvres ou alors jeûner. D'accord ? Parce que lui ne peut pas sacrifier une bête puisqu'il n'y a pas d'équivalent. Par exemple, le lapin, comme tu as dit, le lapin, mathalan, ta'il, est-ce qu'il y a un équivalent, il y a un chez les bêtes de troupeau ? Je ne pense pas, Allahu a'lam. Lui choisira entre soit nourrir en estimant la valeur du lapin, soit nourrir les pauvres, ou soit en jeûnant le nombre de pauvres qu'il devait nourrir. Voilà, khalas. Taïb ? Non. Lapin ou la lièvre ? Tu m'as pas corrigé aujourd'hui. Non. Thumma qal, wa amma damul mut'a wal qiran. دم المتعة أي تمتع والقران فيجب فيهما ما يجزئ في الأضحية وهذا سيأتي إن شاء الله في باب الأضحية نعم فإن لم يجد صام 10 أيام أي أن من لم يجد دما أو طعاما فإنه يجزئ عن أن يصوم 10 أيام لقوله تعالى فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك 10 كاملة. طيب. Puis il dit, quant au sacrifice de al-mut'a, c'est-à-dire al-tamattu', le sacrifice que doit faire al-mutamatti', celui qui est en mode tamattu' et celui qui est en mode qarin. D'accord? On a vu que le point commun entre les deux, mutamatti' et al-qarin, c'est que tous les deux ils doivent faire une offrande. D'accord? C'est pas comme al-mufrid. Celui qui a fait al-ifrad, lui, il n'a pas d'offrande à faire par rapport à l'ifrad. Tout d'abord, la bête qu'ils doivent sacrifier, ces deux-là, mutamatti' ou al-qarin, elle est soumise aux mêmes règles, aux mêmes conditions que la bête de al-udhiyya. Hein, la bête qu'on sacrifie, nous, Eid al-Adha, al-udhiyya, elle a des conditions pour être valide. Hein? Il ne faut pas qu'elle ait de défauts, il ne faut pas qu'elle soit aveugle, il ne faut pas qu'elle soit gravement malade, etc., etc. Donc ces conditions-là, on le verra plus tard dans justement le chapitre qui la concerne. Bi'idhnillah ta'ala. Mais celui, donc al-mutamatti' ou al-qarin, qui n'a pas trouvé de bête à sacrifier, ou qui n'a pas les moyens de l'acheter et de la sacrifier, qu'est-ce qu'il fait? Il jeûne 10 jours. Il jeûne 10 jours. D'accord? Na'am. Donc lui, il devra jeûner 10 jours à la place, car Allah tabarak wa ta'ala, dans le sens rapproché, il dit, et celui donc, qui a fait al-tamattu' ou aussi al-qiran, d'ailleurs, il doit sacrifier une bête de ce qui lui est facile, de ce qu'il peut. Et celui qui ne trouve pas, il y a de bêtes, ou de quoi sacrifier la bête, il jeûne 3 jours pendant le pèlerinage, il jeûne 3 jours pendant le pèlerinage, d'accord? Et 7 jours lorsqu'il est revenu, lorsque, Allah il dit, lorsque vous revenez, il a raja'atou, d'accord? Cela fait 10 en tout. في الآية نعم
القارين يأتي به
نعم
بضحيته
هناك يقول أما دم متعة والقران لا ici il parle des deux, le chéri parle des deux. طيب المهم s'ils peuvent pas, il arrive quelque chose ou la haja, il peut pas sacrifier, d'accord, il peut pas sacrifier. Qu'est-ce qu'il fait? Il jeûne 10 jours, 3 jours pendant le Hajj, 7 jours, yani, comme il dit Allah, quand vous revenez, idha raja'tum. Ça veut dire quoi quand vous revenez? En vérité, c'est après le Hajj. Une fois que vous avez fini le Hajj, vous pouvez commencer à jeûner 7 jours. Donc ça peut être à Mecca. Vous pouvez commencer à jeûner ces 7 jours-là à Mecca, ou sur le chemin du retour, ou une fois rentré chez vous. Ça y est, vous avez le choix, alhamdoulilah. Mais les 3 jours-là, pendant le Hajj. D'accord, les ulama disent, c'est bien de les faire le 6, le 7 et le 8. Ces 3 jours-là. 6, 7, 8. D'autres disent, si tu ne peux pas jeûner le 8, tu fais 7, le 6, pardon, tu fais 7, 8, 9. 7, 8, 9. D'autres disent, si tu ne peux pas, tu peux faire 11, 12, 13. Ayyam Tashriq. Ayyam Tashriq, tu es encore dans le Hajj, tu peux faire ton jeûne ces 3 jours-là pendant Ayyam Tashriq.
Forcément consécutivement comme ça? 7, 8, 9? 7 et 9, 10?
Allah alam, il n'y a pas de condition de consécutivité ici. Il n'y a pas la condition. 3 jours. D'accord? 3 jours pendant le Hajj et 7 jours après.
Non. On n'a pas parlé des moments où ceux qui ont une expiation à faire du type jeûne doivent la faire. Pour celles qui ont porté des gants ou ceux qui ont mis qui ont couvert leur tête ou qui ont mis des mahrir. On a dit qu'ils doivent jeûner 3 jours, mais
si s'il n'y a pas de détails, c'est qu'ils doivent les faire quand ils peuvent, inshallah ta'ala. Quand ils peuvent, inshallah. Ça n'aura, inshallah. On verra s'il y a le chéri détail après. Bi'idhnillah. Sinon, on demandera, inshallah ta'ala, par rapport à ça. Non. Taïm. Thumma yaqul al-mu'allifu rahimahullah. Thalathatan fil hajj. ويجوز أن يصوم أيام تشريق عنها فأيام تشريق لا يجوز صيامها إلا لمن لم يجد الهدي فيصومها حتى يكون قد صام 3 أيام في الحج وقد تقدم ذلك في كتاب الصيام.
Donc on a dit 3 jours pendant le pèlerinage,
Et il lui est permis de jeûner durant les jours de Tashriq, alors qu'à la base, c'est interdit à la base. On a vu dans le Kitab Siyam, vous rappelez, parmi les jours interdits, dans lesquels il est interdit de jeûner, les trois jours de Tashriq, avec Yom al-Eid, bien sûr. Mais aussi les trois jours de Tashriq, c'est interdit à la base. Mais exception faite pour cela. D'accord ? Pour les pèlerins qui ne peuvent pas sacrifier leurs bêtes. Eux, ils peuvent jeûner les trois jours de Tashriq. Et sept jours lorsque il revient. D'accord ? Non. طيب. وكذلك حكم من ترك واجبا أو وجبت عليه الفدية لمباشرة. أي أن من ترك واجبا من واجبات الحج أو وجبت عليه فدية بسبب مباشرة وهي ما دون الوطئ كالتقبيل ونحوه ولم يجد الدم أجزأ عنه أن يصوم عشرة أيام. Et également, le jugement de celui qui a délaissé une obligation, d'accord, ou qui doit faire une expiation à cause de Al-Mubashara. Al-Mubashara, qu'est-ce que c'est? C'est celui qui, en état d'Ihram, il a eu des contacts physiques avec son épouse, Bishahwa, avec plaisir et désir. D'accord? On ne parle pas du rapport intime, on parle juste des touchés, d'accord, des contacts physiques avec l'épouse en état d'ihram. Et on a vu que ça faisait partie des interdictions de l'ihram. Hein? Donc celui qui a délaissé une obligation parmi les obligations du pèlerinage ou qui doit faire une expiation à cause de al-mubashara, d'accord, le fait d'embrasser mathalan son épouse et autre chose que cela, et qui n'a pas trouvé de sacrifice, eh bien, lui aussi, il peut jeûner 10 jours. Lui aussi, il est concerné par cette deuxième option. Enfin, ce n'est pas une option, c'est celui qui n'a pas de bête à sacrifier, il jeûne 10 jours. D'accord ? C'est bon, les frères ? وَكُلُّ هَدِيٍ أَوْ إِطْعَامٍ يَتَعَلَّقُ بِحَرَمٍ أَوْ إِحْرَامٍ فَلِمَسَاكِينِ الْحَرَمِ مِنْ مُقِيمٍ وَآفَاقِيٍ وَيُجْزِئُ الصَّوْمُ بِكُلِّ مَكَانٍ. طيب. كل هدي أو إطعام واجب فهو لمن؟ لمساكين الحرام فقط. لقوله تعالى أو كفارة طعام مساكين مع قوله هديا بالغ الكعبة هديا بالغ الكعبة. والأفاقي هو الذي ليس من أهل مكة أصلا وإنما قدم إليها وسكنها فيجوز أن يعطى إذا كان مسكينا. أما الصوم فيجزئ في كل مكان لأنه لا يتعدى نفعه. بيدي Toutes les bêtes sacrifiées ou la nourriture que l'on va donner aux pauvres à cause d'un acte qu'on a fait, que ce soit par rapport à l'endroit ou par rapport à l'état d'ihram, d'accord, la viande de cette bête ou la nourriture qu'on va donner, elle est réservée aux pauvres du haram. Uniquement. Aux pauvres du haram. Que ces pauvres-là du haram soient des gens qui habitent de base dans le haram, à Mecca, ou soit des gens qui sont venus d'ailleurs, mais qui sont yani à cet endroit-là. D'accord ? Par contre, il est permis de jeûner. Le jeûne que tu dois faire comme expiation, tu peux jeûner n'importe où, il n'y a pas de problème. D'accord ? Fi ayi makan. Donc, la bête du sacrifice ou la nourriture que tu dois donner, elle est réservée aux pauvres du haram. Car Allah tabarak wa ta'ala dit: "Aw kaffaratun ta'amu masakin", ou une expiation nourrir des pauvres avec sa parole, hadyan baligha al-Ka'ba. Hadyan baligha al-Ka'ba, une offrande yani qui atteint al-Ka'ba. Hein, l'endroit. Na'am. Fa al-afaqi, le terme al-afaqi, on l'a vu, c'est celui qui n'est pas d'origine de la Mecque. Il n'est pas originaire de la Mecque, mais il est venu. Il a cet endroit-là, d'accord. Sakanaha, donc il y a Sakanaha, hein? Habité, na'am, mais qui n'est pas d'originaire de la Mecque. Lui, eh bien, on peut lui donner s'il est pauvre. S'il est pauvre, on peut lui donner. Quant aux jeunes, on peut le faire n'importe où. Parce que ce n'est pas un acte yani, qui va profiter à autrui. Le jeûne, yani, c'est un acte personnel qui ne profite pas à autrui. D'accord ? Alhamdulillah. Wa dam al-nusuk. Dam al-nusuk. Kal-mut'a. Wal-qiran. Wal-hadi. Al-mustahabu. An ya'kula minhu. Wa yuhdi. Wa yatasaddaq. هذا شيء آخر. قال بعض الفقهاء يجعلها أثلاثا، فيأكل ثلثا ويهدي ثلثا للغني من قريب أو جار أو صديق، ويتصدق بثلث على الفقير من قريب وغيره، لقوله تعالى فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. Puis il dit, quant à l'offrande qu'on appelle l'offrande de Nusuk, l'offrande que doit faire Al-Mutamatti' ou Al-Qarin, d'accord ? Celui-là, tu n'es pas obligé de donner toute ta viande aux pauvres. Il n'y a pas cette obligation-là. Il est recommandé même que tu en manges une partie et que tu en offres une partie. Et que tu en fasses au monde une partie. C'est-à-dire, comme ont dit certains juristes, tu la divises en trois. Tu la divises en trois. Donc tu peux en manger, il est bien même que tu en manges, le tiers. Que tu en offres le deuxième tiers à un proche, à un voisin, à un ami, même s'il est riche. Même s'il est riche. D'accord ? Un cadeau, yani. Et que tu donnes le dernier tiers en aumône aux pauvres. D'accord ? Que ce soit un pauvre proche de toi ou un pauvre qui est éloigné. D'accord ? Et cela en vertu de la parole d'Allah et tabaraka wa ta'ala. Et manger minha, de ce sacrifice-là, fakulu minha, et nourrissez-en al-qani' ou al-mu'tar. Al-qani', certains ulama, ils disent celui qui en est chez lui qui demande rien, laisse demande rien. Le mu'tar, celui qui montre sa pauvreté, qui fait comprendre aux gens qu'il est dans le besoin.
Ça doit être forcément un musulman ou
non? C'est un musulman ici. Non, musulman. Toute sadaqa obligatoire, comme ici c'est obligatoire, doit être faite pour un musulman. Concernant les choses qui sont non obligatoires, tu peux les donner yani, à des non-musulmans, dans le but de les ramener à l'islam, etc. Mathalan, la zakat obligatoire, tu ne peux pas la donner à un non-musulman. D'accord ? Sauf pour le ramener à l'islam, s'il fait partie des al-mu'allafa qulubuhum. C'est la seule exception. Mais sinon, à la base, c'est un musulman.
Celui qui peut faire du mal aussi.
Non, et lui, il rentre dans le mal. D'accord ?
La bête qu'on sacrifie, elle est obligatoire, non ?
Celle-là, elle est obligatoire, c'est le mutamatti'.
Non, on est obligé de la donner.
La mustahab, c'est recommandé.
Bah donc, c'est pas obligatoire.
C'est recommandé.
En fait, on regarde l'obligation, c'est quoi en fait ? On regarde quel type d'obligation ?
Non, t'as raison, c'est vrai. Le sacrifice en lui-même, il est obligatoire. Le sacrifice, est obligatoire. Mais le fait de donner la viande, ce n'est pas une obligation. C'est une recommandation. À partir de là, alhamdoulilah. La raison, le frère, à partir de là, si on se base sur la règle, al-qa'ida, qu'on a citée, tu peux la donner même à un kafir. Parce que ton obligation à toi, c'était là, le sacrifice. D'accord ? Si tu veux, tu peux la manger entièrement. Si tu veux, tu peux tout donner. Allah
a'ala. Mais le lieu que là où ça se fait.
Ouais, de toute façon, à Mecca, tu n'en trouveras pas. À Mecca, tu n'en trouveras pas. Voyez ? Non. Donc l'affaire, elle est réglée. Voyez. ثم يقول رحمه الله تعالى والدم الواجب لفعل المحظور أو ترك الواجب ويسمى دم جبران دم جبران يسمى دم جبران لأنه يجبر الواجب المتروك. Puis on a le sacrifice obligatoire pour celui qui a fait un interdit ou qui a délaissé une obligation. Ce dem, on l'appelle dem jubran, la réparation. Parce que il vient réparer ce que tu as fait. Il vient réparer ce que tu as délaissé comme obligation. D'accord ? هذا لا يأكل منه شيئا بل يتصدق بجميعه لأنه يجري مجرى الكفارات. طيب يعني يجي ici le cheikh quant à ce sacrifice là qu'on appelle dam jubran, tu n'as pas le droit d'en manger quoi que ce soit. Tu es obligé de le donner en aumône en entier. Pourquoi? Parce que c'est une expiation. C'est pas la même chose. Tout à l'heure on parlait du sacrifice del mutamatti' wal qarin, c'est pas une expiation ça. Ça c'est une obligation qui pèse sur leurs épaules. Mais al kafara, c'est une expiation, c'est autre chose. L'expiation, elle, tu n'as pas le droit d'en manger. Tu dois sacrifier et donner toute la viande aux pauvres. D'accord ? Wa hakada. Wa shurut at-tawaf mutlaqan. يعني يشترط لكل طواف واجب أو مستحب خمسة شروط. Là on va commencer à citer les conditions du tawaf. Important. Conditions du tawaf de manière générale, globale. Que ce soit un tawaf, quand on parle de tawaf, on parle de la circumambulation autour d'un Kaaba. Quand on parle de tawaf, on parle du tawaf obligatoire et facultatif, les deux, les mêmes conditions. D'accord ? Il dit il y en a cinq. Khamsa. Al-awwal, al-niyya. Niyyatu ta'abbud bit-tawaf. Wa al-niyyatu shartun li sihhati kulli ibada. Première condition, qui est la même pour toute adoration, l'intention. D'accord ? L'intention d'adoration pour Allah tabarak wa ta'ala à travers le tawaf. Thumma al-ibtida'u bihi min al-hajar ay al-hajar al-aswad yabtadi'u al-tawafa min al-hajar al-aswad l'hadith ibn Umar qala ra'aytu rasulallah sallallahu alayhi wa sallam hina yaqdamu makkata إذا استلم الركن الأسود أول من أو أول ما يطوف يخب ثلاثة أطواف من السبعة يسرع أخرجه البخاري ومسلم. Deuxième condition, commencer par la pierre noire. Commencer ton premier tour au niveau de la pierre. D'accord ? En vertu du hadith d'Ibn Omar qui a dit, j'ai vu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam quand il est arrivé à Mecca Eh bien, il est parti et il a d'abord touché la pierre. Il a touché la pierre noire, d'accord ? Et ensuite, il a commencé à faire ce qu'on appelle un ramal, c'est-à-dire marcher, mais vite, d'accord ? Marcher vite avec des pas rapprochés, comme on a vu, durant les trois premiers tours. Durant les trois premiers des sept tours, d'accord ? Hadith chez Al-Bukhari Muslim. Non ? Dans le hadith, istalama. Donc, istalama, ça peut être touché avec la main, ça peut être taqbil aussi, ça peut être le fait d'embrasser la pierre. D'accord ? Istalama, pour celui qui peut. Hadith sunnah. Wa yusannu an yastalimahu wa yuqabbilahu. Bada al-mu'allif rahimahullah bi dhikri ba'di sunani al-tawaf. Wa minha istilamu al-hajar wa taqbiluhu. Li hadith ibn Umar. قال رأيت النبي عليه الصلاة والسلام يستلم الحجر ويقبله أخرجه البخاري ومسلم. Concernant la pierre noire, il y a certaines sunnah. C'est une sunnah de la toucher avec la main et aussi de l'embrasser. D'accord ? Et aussi de l'embrasser. Donc parmi les sunnah du tawaf, toucher la pierre et l'embrasser. En vertu du hadith d'Ibn Omar, qui a dit, j'ai vu le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, toucher la pierre et l'embrasser. Rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Non. Fa'il lam yastatien, ashara ilayhi. Ashara ilayhi. Ay biyadi. طيب لحديث ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طاف بالبيت وهو على بعير كلما أتى على الركن أشار إليه بشيء في يده بشيء في يده وكبر أخرجه البخاري ومسلم. طيب. Et s'il ne peut pas ni la toucher, ni l'embrasser, qu'est-ce qu'il fait ? Est-ce qu'il fonce dans le tas et il pousse les gens ? Hein ? Il pousse les femmes, il pousse les vieux, il pousse... Comme certains y font. Moi, j'ai vu des frères, ils ont fait ça. Des frères. Des frères, soi-disant, d'Al-Menhen et tout. Ils sont rentrés dedans, ils ont poussé tout le monde, ils sont sortis, et ils étaient contents. J'ai touché la pierre, je suis content. Il avait des griffures là. Voilà, c'est vrai. Il avait des griffures. Il saignait de là. Son camis déchiré. Voilà, c'est vrai. Ils n'ont rien compris, ces gens-là. Comment tu peux nuire à des musulmans pour faire une sunna ? Voilà, c'est contradictoire. Tu fais une sunna et en même temps tu fais un haram en nuisant aux gens. D'ailleurs. Des gens, même surtout ceux qui sont en ihram, ils arrivent, ils tombent, il y a tout qui tombe, frère.
Pour certains qui sont floutés, ça vaut le coup d'attendre un peu et de se faufiler sans faire le tort à tout le monde.
Qui sont ?
Qui sont habiles. Ils arrivent à se faufiler sans faire du mal aux gens. Mais ils font un peu de temps. Ça en vaut le coup d'attendre.
Il continue, fais son tawaf. Fais son tawaf. Il fait, yani, ce que les sahaba faisaient. Il montre comme ça avec sa main. Il dirige sa main ou l'objet qu'il a dans la main. Il montre la pierre. Allah Akbar. Il continue. Alhamdulillah. D'accord ? Donc, il dit ici, s'il ne peut pas, il montre yani, la pierre avec sa main. En vertu du hadith d'Ibn Abbas, qui a dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il tournait donc autour de la maison en étant sur une monture, et à chaque fois qu'il passait devant donc l'angle de la pierre, eh bien il avait quelque chose dans sa main et il montrait comme ça la pierre avec cet objet qu'il avait dans la main. Et il disait Allah Akbar. D'accord ? Hadith rapporté Bukhari Muslim. Et tu continues, tu fais tes sept. Et reste concentré sur l'invocation. Dua. Dua, dua. Plus important. D'accord? Que tu passes tes sept tours à invoquer Allah, Jalla wa Ala, à mentionner Allah, à glorifier Allah, subhanahu wa ta'ala. Aïna'am. C'est clair, les frères? Alhamdulillah. ويقول عند ذلك يسمي ويكبر يقول بسم الله والله أكبر عند ابتداء الطواف ويقول هذا الدعاء لحديث ابن عمر قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي البيت فيستلم الحجر ويقول بسم الله والله أكبر الحديث ثم وصف طواف رسول الله صلى الله عليه وسلم أخرجه أحمد بإسناد صحيح ويقول اللهم كذلك يقول اللهم إيمانا بك إلى آخره لما روي عن علي رضي الله عنه أنه كان يقول إذا استلم الحجر اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك واتباعا لسنة نبيك صلى الله عليه وسلم أخرجه البيهقي وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان يقول اللهم إيفاء بعهدك وتصديقا بكتابك واتباع سنة واتباع سنة نبيك صلى الله عليه وسلم أخرجه عبد الرزاق. Puis il dit, lorsqu'il commence à faire tawaf, d'accord, il dit Bismillah. Allahu Akbar. D'accord? Il dit Bismillah, Allahu Akbar. Et la dua, Allahumma imanan bika, wa tasdiqan bi kitabika, wa wafa'an bi ahdika, wa tiba'an li sunnati nabiyika Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. D'accord? Il dit Bismillah, Allahu Akbar. Ô Allah, par foi en toi, tasdiqan bi kitabik, et en ton livre, en respectant, en honorant ton, ton pacte, hein, qui est tawhid, l'interdiction du shirk, et en suivant la sunna de ton prophète Mohammed. Et cela en vertu du hadith d'Ibn Omar, qui a dit que lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam arrivait à Al-Bayt, la maison, il touchait la pierre et il disait cela. Il disait Bismillah, Allahu Akbar, le hadith. Rapporté par Imam Ahmed. Et il dit ensuite Allahumma imanam bika, parfois en toi, tasdiqan bikitabika, etc. Comme l'a rapporté Ali, qui disait, donc Ali disait, lorsqu'il touchait la pierre, il disait cette phrase-là, cette dua, Allahumma imanam bika, wa tasdiqan bikitabika, wa tiba'an li sunnati nabiyika, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam.
C'est suffisant de dire bismillah.
Non, tout ça c'est des sunnans, tout ça. Tout ça c'est des sunnans, d'accord? Et. Il a également rapporté Ibn Abbas, radiallahu anhuma, qu'il disait Ibn Abbas, Allahumma ifa'an bi'ahdika, en honorant ton pacte, en croyant en ton livre et en suivant la sunna de ton prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Hadith rapporté par Abdurrazzaq. Taïb. Thumma yaqul wa an yaj'al al-bayta an yasarihi. Taj'al al-bayta an yasarika. أي في كل أشواط طوافه إذن هذا هو الشرط الثالث الشرط الثالث الأول النية الثاني الابتداء به من الحجر والثالث أن تجعل البيت عن يسارك une troisième condition que tu mettes bien sûr la maison sur ta gauche pas sur ta droite quand il y a un problème. Si le Kaaba est sur ta droite, c'est qu'il y a un problème. C'est que normalement, tu vas te retrouver face aux gens. D'accord ? En contresens. Contre... non. Donc, ça, c'est une condition. Taïb. Et il y a tous les achats pour faire. Les hadiths de Jabir. Et le Rasoul Allah, sallallahu alayhi wa sallam, lama qadima Mecca, atta al-hajara wa salama, thumma masha ala yaminihi. على يميني الحجر فرمل ثلاثا وما شاء أربعة أخرجه مسلم. Donc, pendant tous les tours de tawaf, on doit mettre la Kaaba sur notre gauche. Car il a dit Jabir que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il est arrivé à Mecca, il s'est rendu à la pierre, il a touché la pierre, comme on a vu, puis il a marché à la droite de la pierre, à la yamini. D'accord ? C'est-à-dire, il a mis la pierre sur sa gauche. Et il a contourné la Kaaba dans ce sens. Et il a fait ce qu'on appelle un ramel, durant les trois premiers tours, d'accord, la marche rapide, et il a marché normalement durant les quatre derniers tours. Wahakada, hadith rapporté par Muslim. Tayyib, c'est clair, les frères? الشرط الرابع ويكمل الأشواط السبعة فلا يصح الطواف إذا نقص عن سبعة شيئا لحديث ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا طاف في الحج أو العمرة أول ما يقدم سعى ثلاثة أطواف وما شاء أربعة أخرجه Al-Bukhari ou Muslim. Quatrième condition, qu'il complète 7 tours. Donc s'il fait moins que 7 tours, s'il en fait 6 et demi, son tawaf n'est pas valide. Donc il fasse, qu'il complète 7 tours complets. Donc, s'il manque quelque chose des 7, il n'est pas valide. Par rapport au hadith d'Ibn Omar, qui a dit que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il faisait tawaf du pèlerinage ou de l'umra, eh bien, la première chose qu'il faisait, c'est as-sa'i durant les trois premiers tours, c'est-à-dire ar-ramal, durant les trois premiers tours, et il a marché quatre tours. Donc en tout, ça fait 7. Donc le hadith, il est clair, il nous montre que le tawaf est composé de 7 tours complets, pas moins. D'accord ? Non. Celui qui perd ses ablutions durant tawaf, qu'est-ce qu'il fait dans le din?
S'il perd ses ablutions
pendant tawaf, il peut continuer ou pas?
Non. Il peut faire ses ablutions.
D'accord. Et après?
Après il reprend.
Après il reprend. À quel endroit?
Ah, c'est chaud là. Je... En fait, il reprend. Je vous pose cette question si.
Il reprend de là où il était. Ah, il doit se rappeler là où il s'est arrêté. Il part, il revient et il continue. Mais il doit terminer les 7.
Et ici, en faisant les 7, en faisant les invocations, tout ça, il oublie le nombre de tours qu'il a fait. Comment ça marche en fait si c'est...
Il se base sur le minimum. Il se base sur le yakin, c'est-à-dire le minimum.
Ah,
la certitude, c'est le minimum. Il doute sur 5 ou 6. Il se passe sur 5. Comme ça, il est sûr, au moins, il a fait les 7 à la fin. Non, fait que par rapport. Ici, il n'y a pas de sujet de sahou ici. Donc, basta sur le minimum. Classe.
Voilà. J'ai deux questions. Les ablutions, sont obligatoires pour le tawaf ?
On a vu ça, tu te rappelles ?
C'était pas là.
Al-Rajih, ouais, c'est obligatoire.
Et si le tawaf est interrompu par la prière, il reprend de là où il s'est arrêté ?
Pendant la prière ?
Non.
Il prie, il reprend là où il s'est arrêté.
Il reprend.
Et non, il prie avec le groupe. Il prie avec le groupe, il reprend là où il s'est arrêté.
Il n'y a pas un certain temps.
Hmm?
Il n'y a pas un temps.
Un temps?
Ouais, si je m'en
rappelle. Un temps, c'est-à-dire?
C'est-à-dire que s'il dépasse un temps, il faut qu'il refasse tout.
Ah, un temps qu'il refasse tout du début, Yannick?
Non,
si je m'en rappelle. Allah, l'adresse. L'adresse, ça. Ça n'a pas, Inch'Allah.
Si ça avait été, par exemple, à 2 tours et demi, il est parti faire les ablutions, il faut qu'il reprenne à 2 tours ou à 2 tours et demi?
Non, là où il s'est arrêté, 2 tours et demi.
2 tours et demi.
Même endroit. Au même endroit, là. Allah wa rajah, Allah wa ala. C'est bon, les frères? Inch'Allah, n'aktafi bi hadha al-qadr bi idhnillah ta'ala. Wa nawasil, Inch'Allah ta'ala. C'est bon, les muqbil. Wa l'ilmu inda Allah. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين بارك الله فيكم.
Mm-hmm.